Bonjour à tous, bienvenue au salon de lecture Jacques Kerchèche. Oui, ça fait un peu bizarre de tenir le micro comme ça, mais c'est pour le reposer après. Dans le cadre du Zoom sur les langues autochtones, nous accueillons cet après-midi Stéphie Rose Niotniot qui va nous parler du Bassa 2.0. Je lui laisse la parole.
Allô? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Je vous remercie de vous être déplacés aujourd'hui parce que je n'étais pas certaine que la salle serait à peu près remplie étant donné la chaleur qu'il fait, que ça fait très longtemps qu'on attendait qu'il fasse aussi beau. Donc merci d'être venu vous enfermer dans le musée cet après-midi pour parler de Je parle le Bassa 2.0 et Je parle Afrique 2.0. Donc ça sera en deux parties. Je vais vous présenter le projet que j'ai lancé et la deuxième partie sera avec Anthony Ba, qui représente l'agence Totem. C'est une agence de digital basée à Abidjan, mais aussi à Paris, puisqu'il s'agit du 2.0, donc on va vraiment switcher sur le digital. Alors avant de commencer, moi ce que j'aime bien poser comme question pour mettre tout le monde à peu près à l'aise, parce que c'est un exercice assez difficile pour moi de me tenir en face de vous. Comme il s'agit des langues africaines et des langues de manière générale, je demande toujours aux gens qui sont présents dans la salle de m'indiquer parmi vous qui parle d'autres langues que la langue française. D'accord. Et qui parle d'autres langues que l'anglais, peut-être? Oui, quand même, ça fait pas mal. Et en termes de langues africaines, y a-t-il des personnes qui parlent des langues africaines? Il y en a déjà beaucoup moins. Alors moi, je vais donner la parole aux différentes personnes dans la salle. Vous parlez langue africaine? Alors je vais demander à chacun d'indiquer la langue qu'il parle, son pays d'origine, et puis qu'est-ce qui vous a donné envie de venir aujourd'hui?
Alors, moi, je suis camerounaise et donc je comprends le Bassa et je peux le parler un tout petit peu, mais l'accent n'est pas encore là, donc j'évite un peu.
Et d'autres personnes qui parlent les langues, des langues africaines ici? Oui.
Bonjour, je suis camerounaise et je suis Bassa, donc je parle le Bassa. J'ai la chance d'avoir grandi dans plusieurs pays d'Afrique, donc je comprends le Mina, qui est une langue qu'on parle au Togo, qui ressemble un peu au fond du Bénin. Et je parle également le Lingala parce que j'ai grandi avec des Congolais, tout simplement.
Bonsoir, moi je suis camerounaise d'origine et je suis Bassa, bassaphone, comme on dit. Donc je parle Bassa et un peu le pidgin.
Vous parlez quelque chose, une langue africaine? Il y avait d'autres doigts.
Bonjour, moi c'est Tagro Yuluba, je suis ivoirien. Je parle le BT, je suis le sous-directeur du musée des civilisations de Côte d'Ivoire.
Bonjour, j'ai une maman d'origine camerounaise qui est ici et un papa d'origine serbe. Donc, on est des Bassa. Donc, je comprends assez bien. Un peu comme la jeune fille du début, je ne parle pas beaucoup, mais je comprends assez bien.
Bonjour, je m'appelle Aline, je suis sénégalaise et je parle le Wolof. Mes parents sont de deux ethnies différentes, enfin, du coup de deux langues différentes. Je comprends, mais je suis pas aussi fluente qu'en Wolof.
Langue véhiculaire, du coup. Ok, y avait-il d'autres personnes? Oui.
Bonjour Franck, moi je suis camerounais. Je suis Bassa, je comprends, mais je ne parle pas très bien. J'aurais besoin de m'améliorer, on va dire.
Je suis Lissom, je suis Bassa du Cameroun. Je suis un peu traditionnaliste et certainement que je parle Bassa et je peux apprendre à parler la langue Bassa.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Anthony, tu parles une langue de... Ok. Alors, du coup, moi, je vais vous. Moi, je vais vous parler de Je parle Bassa 2.0 et je parle Afrique 2.0. Alors, d'entrée de jeu, je ne suis pas linguiste. J'ai créé ce projet suite à un parcours personnel. Donc, je suis française, je suis née, j'ai grandi à Paris et mes deux parents sont camerounais Bassa. Du coup, à l'époque, j'étais étudiante au Québec. Je suis désolée, ça va vraiment faire storytelling, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. J'étais étudiante au Québec et durant ma première année de master, je faisais un volontariat avec un programme des Nations Unies qui s'appelle le programme Mémoire du Monde. C'est un programme au sein duquel plusieurs personnes, plusieurs entités, plusieurs groupes envoient, soumettent des formulaires pour protéger un patrimoine matériel ou immatériel. C'est-à-dire, ça peut être une chanson locale, une berceuse, un monument ou autre. Et en fait, ils soumettent cette candidature pour demander des fonds. Donc, j'ai lu pas mal de ces formulaires. Ça m'a assez sensibilisée. Et par la suite, j'ai fait un stage au sein de l'UNESCO à Paris. Et durant cette période, j'ai passé 6 mois en France et ça faisait peut-être, je pense, 2 ans que je n'avais pas passé plus de 1 ou 2 mois avec mes parents. Et donc mes parents parlent Bassa, ils ont toujours parlé Bassa, on a toujours grandi dans cette langue, mais nous, on n'a jamais, en tant qu'enfant avec mes frères, on n'a jamais vraiment eu envie d'apprendre. C'est-à-dire que pour nous, le Bassa, c'était plus la langue des parents. C'était, voilà, quand ils parlent en Bassa, c'est que c'est les histoires des adultes, ça ne nous concerne pas forcément. Et puis, bon, au bout d'un moment, on s'intéressait un petit peu, mais c'était plus pour rigoler, pour la blague, à balancer 2, 3 mots comme ça. Et durant cette période, donc, j'ai passé à peu près 1 mois, 2 mois avec mes parents, et je me suis rendu compte que le Bassa, la langue dans laquelle j'ai été un peu bercée, en plus du français, ressemblait de plus en plus à une langue étrangère. Et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir, moi, transmettre à mes futurs enfants? Du coup, quand je suis repartie à Montréal, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, OK, j'ai envie de créer une page Facebook, puisque tout le monde est sur Facebook, tout le monde partage, tout le monde écrit. Et je vais créer une page qui va s'appeler, donc, Je parle le Bassa 2.0. L'objectif était très simple, de pouvoir trouver des personnes qui, comme moi, ne savaient pas parler ou s'exprimer avec un accent qui était plus français que Bassa. Donc, vraiment. L'objectif, c'était de créer un échange, une plateforme de partage. Du coup, le Bassa, ce n'est pas une langue majoritaire au Cameroun, d'ailleurs. Et les langues officielles du Cameroun sont le français et l'anglais. Donc, on a lancé la page Facebook. L'objectif, c'était simple. C'était une fois par semaine, on avait un thème. J'ai lancé en décembre 2013, donc c'était pendant la période des fêtes. Du coup, je demandais aux gens, OK, comment est-ce qu'on dit un sapin, un cadeau dans ta langue? Et au début, bah, je partageais avec mes cousines, demande à Jody comment on dit ça à sa maman, ou demande. Et tout le monde a partagé, les gens se sont mentionnés, donc de manière naturelle, le contenu a été viralisé. Puis après, je me suis rendu compte aussi qu'en plus des visuels, il fallait aussi des audios. À l'époque, WhatsApp, je pense que ça n'existait pas, en tout cas, il n'y avait pas l'option notes. Donc, on faisait ça sur Skype avec mes parents, puisque j'étais toujours au Canada et eux en France. Donc, ma mère et mon père s'enregistraient pour que je puisse donc avoir ce contenu. Parce que c'est bien d'avoir les mots, mais c'est encore mieux de pouvoir entendre la langue. Alors, moi, j'ai envie de vous dire comment est-ce qu'on dit « Bonjour, je m'appelle Ambassa », mais je n'ai pas le meilleur accent. Donc, je vais me tourner vers Tata Monique, qui va vous saluer Ambassa.
Mirabea, mais quelle lame a Mie monga. Ngoma ntap mi ngonduk sul mum e Cameroun.
Elle s'est présentée en même temps. En plus de dire bonjour, elle vous a salué et puis elle a dit d'où elle venait. Alors moi j'adore entendre les langues. Du coup c'était du Bassa et je sais qu'il y a du Lingala un peu. Il y a une autre personne ici. Je veux bien entendre en Lingala.
Mbotenayo. Mbote, ça veut dire mbote, c'est bonjour. Bonjour à vous et puis vous répondez mbote. Mbote. Mbote nayo. Mbote mingi. Quel malamu.
Bonne journée. Bonjour, je suis Dibia. Mais je voulais dire qu'il y a beaucoup de sortes de Bassa au Cameroun. Madame vient de dire, mais Yigalbe, moi je suis Bassa de Ndonga, sur la côte, du côté des Douala. Donc, quand moi je dis bonjour, je ne dirai pas Menyegabe, mais je dirai Menyorabe. Il y a une nuance, mais elle est comme ça, quoi. Donc, il y a les Bassa de Bikok, les Bassa de Babimbi 3, des Bassa de la côte. Il y a plusieurs sortes de Bassa. Je voulais souligner cet état de choses.
Merci beaucoup, parce que c'est quelque chose de très important et c'est aussi ça qui a fait que le projet a pris une bonne ampleur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je demandais aux personnes comment est-ce qu'on dit cadeau, sapin, livre ou autre, à un moment donné, durant la période de Noël, j'ai demandé aux gens comment est-ce qu'on dit un cadeau. Alors moi, mon père, il est Hanlong, je sais pas si je l'ai bien dit, pour dire un cadeau, on dit Likebla. Et d'autres personnes disent Likebel, parce qu'effectivement, dépendamment d'où on se trouve au Nyon Ekele, les mots changent. Du coup, c'est ce qu'on a voulu proposer, parce que bien sûr, il existe depuis très longtemps des supports pour apprendre le Bassa et d'autres langues africaines, notamment des dictionnaires ou encore la Bible. Moi, ce que j'ai voulu faire avec mes parents, c'est donc de partager un contenu voilà, ludique, avec des images, avec du son. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. Et donc, la page a grandi, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, on est arrivé à 100 puis 200 personnes. Moi, j'étais très émerveillée. Je me dis, mon Dieu, parce que c'est, bon, le Bassa, ce n'est pas la langue majoritaire du Cameroun, et de voir qu'il y a autant de personnes qui commencent à s'intéresser. J'étais vraiment impressionnée. Quand on a atteint 500 personnes, j'ai écrit à Jeune Afrique une tribune pour leur dire, voilà, écoutez, je ne suis pas authentique camerounaise, on va dire, mais j'ai cette envie de retrouver mes racines, mon identité, tout en restant fière d'être française. Du coup, j'ai rédigé cette tribune, et une fois que Jeune Afrique a partagé la tribune, on est passé de 1000 à 3000 à 5000 à 7000, puis d'autres médias ont pris le relais, TV5 Monde, Africa numéro 1, BBC. Aujourd'hui, la page est suivie par plus de 13 000 personnes. Et en 2015, on a donc lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank. Étant donné qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont ajoutés, la demande, elle aussi, s'est accrue. On ne pouvait plus rester juste sur une page Facebook. Donc, on s'est dit, OK, il faut qu'on développe un site web bilingue, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément sur Facebook, mais qui veulent aussi s'intéresser à la langue Bassa, puis par la suite à d'autres... Enfin, par la suite, de manière générale, au Bassa et à d'autres langues. Donc, on s'est dit, on va lancer un site web. Il fallait des fonds, donc on a voulu lever la somme que vous voyez. Ça a été fait en 50 jours. L'autre objectif, c'était aussi de développer une application mobile Android. Parce que suite à une étude, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes en Afrique francophone utilisaient Internet sur leur téléphone, et notamment sur les Android. Donc oui, voilà, c'est ce que vous voyez. Et depuis, l'application a bien fonctionné. La page Facebook continue très bien. Et puis on s'est dit, ça serait bien aussi de développer les supports traditionnels. Donc un petit abécédaire qui est juste là. On l'a sorti il y a un an et demi. Et il est en vente dans différents points de vente au Cameroun et en France. On l'a présenté au Salon du Livre. On a aussi fait un partenariat avec la version africaine de Bayard. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les Bayard, les livres pour enfants, les magazines, les J'aime lire. En fait, en Côte d'Ivoire, ils ont la version africaine. Et donc, on a eu quelques pages en langue Bassa. Oui, et puis par la suite, on s'est dit, bon, le Bassa, c'est bien, la langue est très intéressante. On a les réseaux sociaux, on a les supports papier, mais c'est encore mieux de pouvoir développer des supports sur des livres, sur des sacs, pour montrer que bon, bah, même si c'est censé être un peu une langue de village, elle peut se porter un peu partout. Donc il y a plusieurs, plusieurs ambassadeurs, on va dire, des personnes qui ont été très intéressées. Le chanteur Blik Bassi, l'influenceuse Yano Drengako, la journaliste Dominique Larèche, Fatou Ndiaye, Black Beauty Bag, Nana Wax, Absa Toussi. Même Spider-Man aux États-Unis, il a voulu son sac Bassa. Donc, pas mal de gens se sont vraiment intéressés. Et surtout dans les messages qu'on a reçus, puisqu'on a reçu beaucoup de témoignages, les gens étaient soit des couples mixtes, congolais, camerounais, et puis ils disaient, bon alors, quand est-ce que vous allez développer la même chose pour le Lingala ? Ou moi, voilà, je suis née, j'ai grandi en France, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre cette langue. Ou encore même des gens qui sont nés, qui ont grandi au Cameroun, et qui se disaient, nous, mes parents ne nous ont pas appris à parler la langue parce qu'ils voulaient nous donner, entre guillemets, davantage de chances de s'expatrier pour nos études. Le français et l'anglais étaient donc des langues prioritaires, ce qui fait qu'on n'a jamais vraiment appris cette langue qui, malheureusement, n'a toujours pas un rayonnement comme à l'instar d'autres langues. Bon, donc là, voilà, il y a des personnes sur la diaspora, des couples mixtes. Et donc, suite à tous ces commentaires, en 2016, j'ai donc lancé Je parle Afrique 2.0. Et le lancement officiel s'est fait en 2018, en décembre. Donc pour cet événement-là, on était accompagné de l'artiste Fred Ebami, qui vient de faire son entrée. C'est aussi lui qui nous a fait les illustrations du petit livre. L'influenceuse China Donia, franco-gabonaise, qui fait des vidéos à sa fille où elle chante enfant, elle parle enfant. La journaliste Sina Tousaka, donc d'origine nigériane yoruba. Bougar Sarr, donc écrivain sénégalais. Et tous ensemble, nous avons donc échangé sur la place des langues africaines au sein de la mondialisation. L'objectif, ce n'est vraiment pas de rentrer dans un communautarisme, au contraire, c'est de démontrer que ces places aussi peuvent avoir un espace au sein de l'espace francophone et au-delà, et qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre en avant. Comme vous le voyez, là, je vous ai proposé une carte de la place de la langue française en Afrique, parce que le français est aussi devenu, encore en train de devenir une langue africaine. Du coup, notre objectif est de promouvoir les langues africaines dont la diaspora est la plus présente en France. Parce qu'effectivement, il y a plus de, je pense, 2000 langues en Afrique. On ne peut pas tout couvrir. Du coup, on s'est donné pour objectif de commencer par le, bah, après le Bassa, le Bambara, le Wolof et le Lingala. Oui, si tu peux juste repartir en arrière. Je ne peux pas encore trop dévoiler, mais pour vous donner une idée, il y a un petit, une petite collaboration qui est en cours avec l'OIF, l'Organisation française de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie. Donc on a lancé une page Facebook, on a fait la même chose que ce qu'on a fait pour le Bassa. On a lancé une page Facebook qui s'appelle Je parle Afrique 2.0. Pourquoi Je parle Afrique 2.0? Parce que simplement, très souvent, il y a toujours des personnes qui nous demandent est-ce que tu parles africain ou quel est, enfin, dis-moi un bonjour en africain, ce qui n'existe pas. On ne parle pas européen, donc on ne parle pas africain. Du coup, l'objectif était de mettre en avant différentes langues. Là, c'était quelques exercices en swahili. Là, c'était une invitation à des personnes sénégalaises de nous retrouver pour justement partager du contenu avec nous. Et je ne sais pas si tu peux cliquer sur YouTube ici pour vous donner un... Alors, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On m'a dit qu'il y avait une personne qui parlait Wolof dans la salle. Ça sera plus simple de le faire en direct. Je vais te donner la parole. Alors, si tu pouvais nous saluer.
Mangi tudu Aline Tamba, mangi de Paris.
Il n'y a pas d'autres personnes qui parlent Wolof ici, juste pour vérifier qu'on ne s'est pas fait insulter ou autre. On ne sait jamais. Non, je ne sais pas. Du coup, voilà, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec Je parle Afrique 2.0, c'est mettre plusieurs personnes ensemble, en commun, pour démontrer donc la richesse de ces langues et qu'elles doivent aussi avoir une place sur les réseaux sociaux. Donc ici, c'est, il s'appelle Rémin Sabima. Sabimana, il m'a fait une vidéo en Kinyarwanda, il est rwandais. Il est aussi journaliste à la BBC. Là, vous avez Njara Ndiaye, qui est donc une présentatrice RFI Canal+. Elle a fait une vidéo en Wolof et une amie ici en Wolof. Pour Je parle Afrique 2.0, étant donné que c'est vraiment c'est un challenge beaucoup plus grand que ce qui a été fait pour le Bassa. Depuis le mois de... Je suis désolée parce que ça fait vraiment monologue, moi je, mais vraiment, je m'excuse. Mais du coup, depuis janvier, je tiens une chronique donc, sur RFI. Dans la vie ici avec Nathalie Amar, donc qui est le fil rouge d'RFI. Une fois par semaine, on met donc une langue africaine en avant en lien avec la modernité. Par exemple, jeudi dernier, j'ai parlé du Wolof à travers une série, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Maîtresse d'un homme marié. C'est une super série, malgré le nom. Le contenu est en Wolof et il y a les sous-titres et c'est encore une fois une bonne manière d'apprendre une langue de manière ludique. Il y a quelques semaines, on a parlé de la langue Peul. Et puis là, d'autres langues africaines de manière générale. Là, ce que vous voyez, c'est l'objectif est vraiment de s'ouvrir vers d'autres langues africaines, pas rester sur le Bassa, parce que plusieurs fois, on m'a dit « Ah, pourquoi est-ce que tu as fait sur le Bassa? C'est pas la langue majoritaire au Cameroun. » Simplement qu'il fallait bien commencer quelque part. Et surtout, quand j'ai lancé cette idée, je ne le voyais pas du tout comme un projet structuré. C'est-à-dire que bon, je partais d'un constat personnel, à savoir « Ok, je ne sais pas parler, comment est-ce que je peux faire pour accroître cette... pour, disons, trouver des outils, des moyens pour permettre à d'autres personnes d'apprendre aussi. Donc, les livres sont disponibles à l'Institut français de Douala, et bon, ça, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Là, c'est le... Je vais vous présenter rapidement le site web. Ouais. C'est toujours en... Donc là, c'est notre nouveau site web. Et une fois que vous arrivez sur cette plateforme, vous choisissez... Je pense que ça ne charge pas, parce que normalement, il y a les logos qui doivent apparaître. Bon, il y a un petit problème de chargement. Non, ça va, ça prend un peu de temps. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, on est en train de développer d'autres langues africaines. Donc, soit avec des linguistes, soit avec le cercle d'amis, les alentours. Mais tout est toujours vérifié et validé par différentes entités, notamment pour la langue douala. On a fait un partenariat avec une association qui s'appelle Moulema. Malheureusement, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais en gros, l'objectif, c'est vraiment de continuer à s'ouvrir sur les langues africaines en leur donnant une certaine visibilité. Là, vraiment, c'est un peu dommage parce que le site, il n'y a pas tout qui... Si tu peux descendre un peu. Il n'y a pas tout qui apparaît. Donc ça, c'est les vidéos de tout à l'heure. Cette personne ici parle en Ewe, une langue du Ghana. Donc là, c'était en Kinyarwanda, Blikbassi en Bassa, le Wolof qu'on a vu tout à l'heure. Et là, donc, vous retrouverez aussi les différents podcasts. On a fait aussi un podcast sur les langues mandingues, sur le Xhosa, une langue d'Afrique du Sud. Tu peux descendre. Et si vous souhaitez devenir ambassadeur du projet, que vous utilisez les réseaux sociaux, c'est très simple. Dès que vous diffusez du contenu qui a trait à une langue africaine, que ce soit je sais pas, le Lingala, le Mina ou autre, vous pouvez utiliser le hashtag ParleAfrique. Ça permettra de référencer tout ce qui sort en langue sur Twitter. Et puis, un peu plus bas, ça ne charge pas, c'est dommage. Je voulais vous montrer les différents partenaires, les personnes avec qui on travaille aujourd'hui et qui soutiennent le projet, mais ce n'est pas très grave. On va repartir sur le PowerPoint. Voilà, du coup, c'était ma petite partie sur Je parle Afrique 2.0. Et étant donné qu'on aime le digital, qu'on parle du 2.0, je vais donner la parole à Anthony, qui est beaucoup plus expert que moi-même. J'espère que je ne vous ai pas endormi quand même. Hein.
Donc, bonjour à tous. D'abord, merci à Stéphie pour cette invitation qui va nous permettre aussi de découvrir un pan digital qui n'est pas forcément connu en Europe, mais qui est très exploité en Afrique. Vraiment la communication digitale. Alors, qu'est-ce que c'est déjà la communication digitale en Afrique? Comment la définir? Concrètement, c'est simplement des usages vraiment atypiques et uniques du digital en Afrique. Pourquoi ça? Concrètement, quand vous comparez l'usage des applications, des sites ou alors des technologies en Afrique par rapport au reste du monde, vous apercevez qu'à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de leapfrog. Qu'est-ce que c'est le leapfrog? C'est tout simplement un bond technologique. Et à partir de ce bond technologique, on arrive à impacter les sociétés et à les accompagner dans leur modernisation. Donc nous, en tant qu'agence, l'agence Totem Experience, comment on se positionne dans cet environnement? On se positionne en tant que Digital Creativity Labs, donc un laboratoire de créativité digitale. Pardon. Concrètement, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on, comme c'est indiqué sur le slide, on identifie des personnes, des créateurs de contenu ou des créateurs de technologie en Afrique. Et on essaye, à travers des projets, soit de produire un impact au niveau sociétal, donc que ce soit social, que ce soit environnemental, que ce soit au niveau de la créativité, du cinéma, de l'humour. Ça peut être dans plein de domaines, mais à chaque fois, ce qu'on va retrouver comme ADN, c'est le digital. Et cette expertise nous permet de collaborer avec de nombreuses marques internationales et de grands groupes français, notamment. On peut citer Orange ou Air France ou d'autres entités de cette taille. Je peux passer la slide. Je vais vous parler d'Adicom. Alors, Adicom, c'est quelque chose de très spécial pour moi, pour nous d'ailleurs, parce que je ne suis pas tout seul. Totem Experience, c'est avant tout une famille. Je peux considérer aussi que Stéphie fait partie de cette famille. Je peux considérer beaucoup de gens qui font partie de cette famille de toute manière, de la famille Adicom. C'est vraiment l'événement, l'un des événements les plus impactants au niveau du digital en Afrique. Ça fait 3 ans que ça existe, pardon. On va être bientôt sur la 4e édition, qui se déroulera très très certainement sur Dakar, un petit scoop. Pour le coup, ça sera à 90% de la prochaine édition sera à Dakar. Cet événement réunit vraiment les acteurs principaux du digital en Afrique. Donc ça va être des marques, ça va être des personnes influentes sur les réseaux sociaux et ça va être surtout de nombreux professionnels du domaine. Et à travers cet événement, on met en avant d'ailleurs beaucoup de talents issus du continent. On les récompense. Ils sont par la suite accompagnés sur leur projet par des marques. Et on a surtout un gros projet qui nous tient à cœur à travers Adicom Day, c'est l'Adicom Academy, où on va vraiment, notre ambition est vraiment de booster quelque part l'e-learning et l'éducation en Afrique, à travers des formations qui seront disponibles en ligne et à travers lesquelles on va pouvoir du coup, former les futurs professionnels du continent dans ce domaine-là. Et ça ne se limitera pas d'ailleurs au digital, ça sera aussi sur des aspects technologiques qui vont être plus en rapport avec le développement et l'ingénierie. Je vais passer. Là, c'est vraiment, c'est pas de l'autopromotion, c'est vraiment pour vous démontrer à quel point le digital a une importance énorme en fait en Afrique, à tel point que sur ça c'est les chiffres de l'année 2018, ce qui a poussé justement les GAFA à participer à l'édition 2019. Alors je vais expliquer ce que c'est les GAFA. Les GAFA, c'est en fait c'est Facebook, Amazon, en fait les plus grosses entreprises du numérique mondial. Se sont intéressés à l'événement et ont envoyé des représentants pour justement prendre la température, rencontrer les acteurs sur place et vraiment pouvoir développer des choses concrètes sur le continent. Là, on arrive sur l'aspect vraiment créatif de ce qu'on fait avec les marques. Donc là, notamment, c'est une web-série qui traite justement de la francophonie et de sa diversité. Donc on a proposé à TV5 Monde de produire un contenu qui reprend pas mal d'expressions utilisées en Afrique, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, même au Congo, dans pas mal de pays. Et on a pris ces expressions, on a décidé de les traiter avec humour, en fait. Je ne sais pas si tu as internet, on peut voir un extrait. Voilà un exemple de ce qu'on peut produire et ce qui nous rapproche justement du projet Je parle d'Afrique 2.0. Ça regroupe trois points. Donc déjà la francophonie, le fait de mettre en valeur la francophonie dans sa diversité. Un deuxième point, c'est le digital, forcément, parce que c'est par le digital qu'on va pouvoir justement fédérer autour de la francophonie et autour aussi des langues et du parler africain-français, si je puis dire. Et troisième point que j'ai noté sur ma fiche, c'est le récit qu'on va écrire autour de tout ça. C'est d'ailleurs l'élément le plus important. Qu'est-ce qu'on va écrire comme récit dans les 20-50 prochaines années autour de cette francophonie, autour de ces peuples qui parlent plus ou moins la même langue qui est le français, à leur manière? Qu'est-ce qu'on va construire comme pont justement entre la France et l'Afrique? Quels vont être les codes utilisés? Voilà, nous, on a pour ambition, en tout cas, de se placer au carrefour de tout ça et de pouvoir justement faciliter les échanges et clarifier tout ça en prenant en compte notre héritage et en le traduisant par de la modernité. Voilà. Du coup, dernière slide. On va passer, si vous voulez, aux questions-réponses. Si vous avez des questions sur Je parle d'Afrique, si vous avez des questions sur Totem, qu'est-ce qu'on fait de manière peut-être un peu plus concrète, un peu plus approfondie, on est là pour vous répondre. Et sur d'autres sujets, d'ailleurs. Quelqu'un a une question, je lui tends le micro.
Merci beaucoup. Bonsoir. Ok. Et je pense que pour moi, c'est une contribution. Une question, presque une question, mais une contribution. Et certes, vous voulez qu'on fasse la promotion des langues africaines. Mais la petite question, c'est d'abord la question du nom. Parce que moi-même, je suis un exemple palpable. Une fois, je vais à la mairie pour faire l'essai de naissance de mon enfant. Et je n'ai pas mis de nom de baptême. Le mec, il me regarde, il dit, mais voilà un gros cahier, prends-le, choisis un nom. Je n'en ai pas trouvé à la maison. Bon, je ne comprenais rien. Je lui dis, mais écrivez le nom de mon fils, je vais partir. C'était devenu un souci avec lui. Et je suis allé voir le responsable des archives. Et c'est lui qui a résolu le problème. Mais d'abord, c'est nous-mêmes les parents. Si on ne donne pas le nom africain à l'enfant, je ne pense pas qu'il puisse s'attacher à la chose. Aujourd'hui, quand vous voyez les extraits de naissance des enfants à l'école, c'est rien que de nom de baptême. Il n'y a pas de nom africain. Et même quelquefois, l'enfant, quand on l'appelle par le nom africain, il a honte. Il se cache parce qu'il trouve que c'est un peu ridicule. Donc, je pense que on doit d'abord commencer par sensibiliser les parents, de donner d'abord un nom africain pour que l'enfant puisse être attaché à la chose.
Je partage tout à fait votre observation, mais ce qui peut être fait en parallèle de ça, justement, c'est des initiatives, comme je parle d'Afrique 2.0, qui vont permettre aussi de s'approprier d'une autre manière, justement, ces différentes langues africaines, peut-être de manière plus légère, et du coup, surtout via le biais du digital, justement, de sensibiliser une génération beaucoup plus jeune, la mienne, ou plus jeune que la mienne.
Je vais donner, c'est-à-dire un petit c'est-à-dire coucou à ma fille qui a pris vraiment, c'est-à-dire conscience de ce qu'elle est. Et ça nous honore, nous autres, parce que vu notre âge, vraiment, on a des problèmes avec la génération d'aujourd'hui qui ne semble pas comprendre ce que c'est que une culture. Parce que pour moi, c'est ce mot-là, la culture. Est-ce que la culture, c'est un petit mot? Non. La culture, c'est un tout, d'après moi, qui devrait partir du foyer, c'est-à-dire vraiment dès la naissance, et qui doit s'incruster dans l'imaginaire et la conscience de l'être, c'est-à-dire de nous-mêmes. Et c'est ça qui fera en sorte que nous appréhendions la chose culturelle de la langue. Parce que la langue, qu'est-ce que c'est que? C'est un véhicule de la culture. La langue, c'est un véhicule. Donc, si vous voulez, si on veut rester nous-mêmes, avoir nos racines quelque part, il faudra qu'on parte de cette culture qui est un tout, vraiment, qui commence comme il vient de dire, le nom, c'est-à-dire les plats, des choses comme cela qui caractérisent une communauté. C'est ça qui devrait vraiment se profiler dans nos réflexions à chaque fois. Parce que j'ai peur que ce ne soit que des moments, c'est-à-dire que ce ne soit pas à long terme des choses qu'on initie aujourd'hui. Parce que si c'est le digital, très bien, mais en Afrique, tout le monde n'a pas c'est-à-dire que la possibilité d'accéder à ce digital. Les nouvelles technologies de la communication aujourd'hui n'ont pas atteint vraiment tout le monde. Et trouvons des voies et moyens. Moi, je pense qu'il faudra qu'il y ait des forums entre les adultes pour vraiment réfléchir à comment on peut vraiment faire connaître notre culture. Et par où est-ce qu'il faut commencer? Je m'arrête pour le moment.
Je vous remercie pour la contribution. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est vrai que, on va dire que le digital ne peut pas résoudre tous les problèmes, même s'il permet à y accéder. C'est pour ça aussi que je fais ma petite promo. On a des supports papier, des abécédaires. Ça commence aussi comme ça. Donc c'est vraiment une question de se rééduquer tout en restant fier de l'héritage qu'on a, qu'il soit francophone ou africain. Merci.
Bonjour à tous. Je vais faire comme on fait en Afrique. On a l'habitude de toujours redire bonjour quand on prend la parole. Alors pour apporter ma contribution et puis répondre en partie à monsieur concernant le digital, en ce qui me concerne, et d'après les observations que je vois, bien au contraire, c'est quelque chose qui se diffuse énormément en Afrique. Et le réel obstacle par rapport à ça, ce n'est pas tellement le digital, c'est l'électricité. Oui, ça a l'air bête comme ça, mais il y a eu La progression en termes de pénétration digitale en Afrique est très forte. Les gens ont beaucoup de téléphones portables. Ils ont un, deux, voire trois numéros. Chaque fois qu'il y a un nouvel opérateur, ils ont une nouvelle puce. Donc, ce n'est pas en termes de digital que ça se pose, c'est surtout en termes d'électrification. C'est-à-dire que souvent, les gens sont injoignables parce qu'on n'a pas eu d'électricité, on n'a pas pu charger. Donc, une fois qu'on aura gagné la bataille de l'électricité, je pense que la bataille du digital, elle est déjà gagnée. Voilà.
Bonjour à tous, Jody. Donc, c'est pour rebondir sur ce que les deux messieurs ont dit. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec la notion du nom, comme quoi ça pourrait nous rattacher à notre culture ou même pour la culture. Je sais que pour ma part et pour toutes mes amies africaines et mes cousines camerounaises, on a été justement très intéressés par ce projet et on s'est jeté vraiment à corps perdu dedans parce que nos parents, même si on baigne dans la culture camerounaise Bassa, nos parents n'ont pas eu le temps ou la volonté de nous apprendre la langue, ils n'ont pas eu la patience. Et on n'a pas, ici en France, on n'a pas de point où se retrouver ou apprendre une langue, que ce soit Bassa, africaine ou autre. Donc vraiment, ce projet et le fait que ce soit digital, parce que c'est ce qu'on utilise tout le temps, on est avec nos téléphones, c'est vraiment des petits moyens mémotechniques, de rien du tout. Elle va avoir une conversation téléphonique, par exemple, et il y a des mots qui vont rentrer dans ma tête. Je sais que, je l'ai entendu sur le site, je l'ai vu, ou bien je vais dire des petites choses et je vais me sentir intégrée. Parce que j'ai des amis natifs du Cameroun, quand je suis avec eux, on m'appelle la Benguiste, et on se moque de moi. Et je sais que quand je suis avec eux, je suis la blanche, et quand je suis avec mes amis blancs, je suis la camerounaise. Donc c'est vraiment important en fait de vraiment soutenir ce projet, nous en tant que jeunes, et vous aussi de parents, de consolider en fait cette initiative. C'est pas je parle Bassa qui va tout faire, mais que les parents aussi suivent derrière et l'entourage familial. Voilà.
Je tiens juste à préciser que je n'ai pas rémunéré Jody pour qu'elle fasse cette promotion gratuite. Merci beaucoup. Je vais vous passer la parole simplement pour faire le lien entre tout ce qui vient de s'être dit. Que le digital favorise l'apprentissage de certaines choses, mais qu'il n'est pas la solution finale quand il y a des problèmes d'électricité. Il y a une personne ici, Benjamin, qui a travaillé très longtemps pour une association Oser l'Afrique ou encore au Botama. Et ils sont au Cameroun et un peu partout, parce que je ne veux vraiment pas rester sur le fait que c'est au Cameroun, parce que les petits soucis qu'on a au Cameroun, on les retrouve aussi dans d'autres pays. Et ils ont essayé donc de faire un peu ce que disait tout à l'heure Anthony, de trouver une solution au leapfrog, c'est-à-dire dans certains pays encore aujourd'hui, ils n'ont pas pu connaître. Alors, je vais faire très attention parce qu'il ne faut pas que je fasse l'ethnocentrisme. Attendez. Voilà. Ce que j'allais dire, c'est que en France, par exemple, on a eu le temps d'avoir un téléphone fixe à la maison et puis d'arriver au téléphone portable. Mais dans certaines régions, il n'y a pas eu le fixe, on est directement passé à l'iPhone. Entre-temps, il y a des problèmes d'électricité et d'autres choses beaucoup plus importantes à régler qui n'ont pas toujours été faites. Donc, Benjamin, je te donne la parole.
Merci. Je ne sais pas si tu dois dire merci parce que elle me prend un peu de cours. Bonjour tout le monde. Je suis juste ici en visite privée pour venir soutenir Stéphie qui est une amie et avec qui on essaye depuis plusieurs années d'apporter notre part de je sais pas dire de pierre à la transformation qu'on voit naître sur le continent africain. Donc ouais, l'initiative dont elle parle, et on a vu des images un peu de Botama puisque Stéphie Rose a fait un petit passage dans notre atelier. C'est un atelier d'innovation collaborative et c'est une manifestation de comment on peut utiliser aussi le digital pour retrouver le réel. Le digital c'est bien, mais il ne faut pas rester dans le digital, il faut aussi retourner, comme disait monsieur, dans le réel. Et Obotama, c'est un espace qu'on a créé, ça fait un an déjà, il fait c'est un an, grâce à la contribution de personnes qui n'étaient pas dans le Cameroun forcément. Donc on s'est dit, on aimerait trouver des personnes qui sont prêtes à soutenir l'initiative et on a lancé une campagne de crowdfunding sur une plateforme qui est en fait comme un site internet où vous vous connectez et vous pouvez donner de l'argent peu importe où vous vous trouvez dans le monde pour permettre d'aménager un espace dans lequel on va pouvoir diffuser de la culture avec des livres, mais également faire venir travailler des entrepreneurs et faire passer des artistes, des choses comme ça. Et donc la campagne a pu relever 13 000 euros, grâce à beaucoup de personnes d'ailleurs ici à Paris, qu'on avait remerciées. Et l'espace existe aujourd'hui, il y a deux personnes qui travaillent à plein temps, c'est des gens dont la vie a été changée dans le réel grâce au digital. Et dans cet espace aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a quelques mois, un autre entrepreneur que nous hébergeons a levé 7 000 euros également par une plateforme de crowdfunding et peut maintenant continuer à faire développer son commerce dans le pays. Donc, les moyens d'utiliser le digital pour faire des choses, transformer des choses et mettre aussi notre culture dans le monde, parce que il y a une part de travail qui nous revient, c'est-à-dire la culture aujourd'hui est peut-être dominée par tout ce qui vient des États-Unis ou d'autres pays, parce qu'ils ont beaucoup d'avance sur nous et ils ont mis le contenu de leur culture sur ces moyens-là. C'est à nous aussi de produire des choses avec notre réalité, ce que fait Totem, ce que fait Stéphie, des livres pour les enfants, des t-shirts, des habits, la nourriture. On peut utiliser tous les véhicules de notre culture et les mettre à disposition du monde. Et petit à petit, les gens vont trouver ça normal, comme ça se fait aujourd'hui, de porter des tissus imprimés, de donner des noms peut-être demain, parce que ça sonne bien de donner un nom africain. Et donc, c'est à nous aussi de faire ce travail, de ne pas attendre toujours qu'on nous tende la main. Même si on ne nous ouvre pas la porte, on passera par la fenêtre. Donc, bon courage à Sophie.
Benjamin.
Bonjour à tous. Moi, je tenais tout simplement à encourager le projet parce que tout à l'heure, le monsieur, il a parlé du nom, mais bon, pour nous qui sommes dans les mariages mixtes, c'est un peu compliqué. Donc, le fait qu'on ait le digital, moi, je sais que c'est par là que mon fils, il a commencé à s'intéresser au bassa. Parce que moi, voilà, un côté, je suis créole et de l'autre, je suis camerounaise. Voilà, donc le fait d'avoir le digital, ça a interpellé déjà mon mari. Et puis moi, je vois à la maison, mon fils, quand il rentre sur Internet avec sa sœur, bon, voilà, ça permet qu'il commence à avoir des petits mots en bassa. Donc moi, vraiment, c'est surtout pour encourager le projet et vraiment qu'il puisse aller de l'avant pour qu'on puisse avoir des enfants, même quand ils sont nés ici, et qu'ils puissent rallier les deux cultures. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres?
En ce qui me concerne, moi, je dis que tout part de la base, c'est-à-dire des parents. C'est tel nous, les adultes aujourd'hui, ou les âgés, comme mes petits m'appellent et tout, nos parents nous ont fait comprendre que le Cameroun, notre pays, était notre patrie, était quelque chose qu'on devait aimer. Tel nous, aujourd'hui, nous devons tout faire pour que nos enfants, ça part de nous, nos enfants, nos petits-enfants. Moi, comme disait la dame, j'ai été mariée à un Serbe venant du Cameroun dans les années 70. Mais les enfants, j'ai toujours tout fait, avec les petits moyens que j'avais, de les amener au moins une fois tous les 3 ans au Cameroun. Et ma fille, aujourd'hui, elle me dit, « Maman, ces moments-là, je me rappelle comme des jours que j'ai passés sans être vivante. » Elle me dit, « On sortait le matin, on jouait, et on rentrait le soir, on mangeait et on dormait. » Elle me dit, le dimanche, on allait à la messe, tata venait nous chercher. Et je me rappelle de ses copains de jeu qui m'appelaient, maman, Émilie est en train de marcher pieds nus. C'est-à-dire, ce sont ses copains à la base qui l'ont aidé à apprendre à marcher nus, à manger les galettes de manioc, à parler un peu de bassa. Et aujourd'hui, je pense que ma fille, elle est plus camerounaise que moi-même, j'ai envie de dire. Donc je dis, ça part vraiment de la base. Les enfants, c'est des éponges. Ils absorbent tout ce que vous mettez à leur disposition. À la base, quand ils sont petits, ils peuvent tout apprendre. Donc, mais je pense qu'il y a des enfants qui grandissent ici et qui n'ont jamais mis un seul pied au Cameroun. Comment voulez-vous que ça les interpelle? Comment voulez-vous qu'ils se sentent concernés plus tard? Comment voulez-vous qu'ils, quand on leur dit « rentrez donc chez vous », qu'ils se disent qu'au moins j'ai un chez moi? Je ne sais pas, c'est long. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas. Je voudrais juste dire que tout part de la base. Quand les enfants ont été, c'est-à-dire qu'ils ont été encouragés, qu'ils ont été initiés, qu'ils ont été... Moi, je suis née dans un petit village, il n'y avait pas d'électricité, mais j'ai toujours amené mes enfants là-bas en vacances. Ils se rappellent des plantains frits préparés sur un feu de bois, le poisson frit dans l'huile de palme, leur grand-mère qui avait les mains toutes noires, mais qui les amenait se baigner au lac, ils se rappellent de ça. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on n'oublie pas. Tout part des parents. Il ne faut pas toujours tout laisser entre les mains des autres. Tout part de nous. Comme nous sommes nés, moi, une fille dans les années 50, et que mon père m'a dit, t'es une fille, mais je t'envoie à l'école.
Je pense que tout part des parents, tout part de la base. C'est tout ce que je voulais souligner.
Merci beaucoup.
Je vais compléter, hein, puisque c'est moi, sa fille. Oui, juste pour dire que j'ai eu la chance d'aller au Cameroun régulièrement grâce à ma maman. Donc c'est vrai que j'ai pu avoir tous ces moments avec la famille, avec les amis. Elle m'apprenait à compter en bassa. J'ai fait mon catéchisme en bassa. J'allais à l'église. Donc c'était très dur de comprendre tout. Et donc voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir aussi mes tantes autour. Donc on pouvait parler. Quand j'entendais parler bassa, j'entendais tout ça, je comprenais. Je demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, après, je ne parle pas forcément très bien, mais quand j'entends du bassa dans la rue, dans les transports, j'écoute pour un peu voir ce que je comprends. Et c'est vraiment, comme elle dit, en allant au Cameroun, en côtoyant la famille, en m'intéressant aussi au pays, que je pense que je comprends assez bien. Donc je la remercierai jamais assez pour ça.
Alors, moi, j'aimerais avoir l'opinion d'une Sénégalaise. Comment est-ce que, puisque tu m'as dit que tu étais de deux ethnies différentes, tes parents, et que ce n'est pas le Wolof, parce que le Wolof, c'est l'une des langues officielles du Sénégal, c'est aussi une langue véhiculaire, c'est-à-dire que c'est une langue qui permet de rassembler plusieurs personnes qui appartiennent à des ethnies différentes, mais ils peuvent se comprendre, soit les Sérères ou les Mandingas, mais je te laisse la parole.
Alors, mon papa est d'une ethnie Diola, qui se retrouve dans la partie sud du Sénégal, qui est la Casamance. Et typiquement, pour dire bonjour, on vous dit Kassoumey, Kassoumey Kep, qu'est-ce que ça a fait, Karasibou, Ampa Ome, comment va ton papa, Mama Ome, comment va ta maman. Et ma mère, elle est d'une ethnie qui se trouve dans le bassin arachidier du Sénégal, et les Sérères. Et pour dire bonjour, on vous dit Nafio, Mechemen, Owama. Et puis voilà. J'ai mon ami qui me demande comment j'ai appris le Wolof, pardon de monopoliser la parole. En fait, le Wolof, c'est, comme disait Stéphie, c'est la langue véhiculaire du Sénégal. C'est vraiment notre ADN. Quand on est, c'est vraiment la première langue qu'on apprend. Le français, c'est à l'école, dans les institutions, mais le Wolof, c'est comme le français en Côte d'Ivoire. Tout le monde parle le Wolof intuitivement, peu importe ton ethnie, peu importe tes origines, ta religion, c'est vraiment notre pièce d'identité.
Je vais encore t'embêter. Et du coup, moi, j'aimerais savoir, est-ce que, disons, à quel moment est-ce que dans ta tête, tu t'es rendu compte qu'à la maison, on ne parlait pas la même langue qu'à l'école? C'est-à-dire, tes parents, ils parlaient Wolof ensemble ou est-ce qu'ils les deux parlaient la langue de l'un ou de l'autre? Parce que, par exemple, au Cameroun, c'est une société un peu patriarcale. Donc, du coup, moi, ma grand-mère était Wendo, mais elle parlait Bassa parce que mon grand-père était Bassa. Donc, du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est... Tes parents, quelle langue? Est-ce qu'ils parlaient une langue commune en dehors du Wolof? Et si oui, est-ce que tu t'es rendu compte à un moment donné que ce n'était pas la même langue qu'on parlait en ville? Et à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte qu'à l'école, tu parlais une autre langue? Et puis, en quelle langue est-ce que tu rêves?
Alors, je suis en France depuis 2011. On apprend le français dès la maternelle, mais jusqu'à présent, je rêve en Wolof. Quand je me lève le matin, mes premières paroles sont en Wolof intuitivement. Et puis, c'est comme des fois quand on traduit, quand on apprend une nouvelle langue et qu'on fait la traduction du français à la langue de destination, le Wolof, c'est vraiment le petit, le premier automatisme de la journée. Ça se remarque quand on est entre Sénégalais, des fois, quand on soit dans un groupe multiethnique, c'est très automatique. On voit un Sénégalais, automatiquement, on commence à parler en Wolof. Et moi, dans ma famille, j'ai grandi dans une famille de 7 enfants. Et la langue, il est plus facile d'apprendre la langue maternelle que la langue paternelle parce qu'on passe plus de temps avec maman. Donc, du coup, c'est quand on est dans une famille multiethnique, en général, on apprend plus facilement la langue de maman. Mais moi, ça n'a pas été mon cas parce que papa était trop présent aussi, donc du coup, la solution de facilité, c'était le Wolof, parce que c'était un peu, tu comprends mieux le Diola, du coup, au final, on devenait un peu schizophrène. Donc le Wolof, c'était vraiment la langue facile. Et à l'école, c'est pas compliqué, parce que même entre nous, on parle Wolof, on parle vraiment le français quand il y a le professeur ou le maître, mais dès que c'est entre nous, ça switch, mais c'est vraiment...
en automatisme, quoi. Ça switch automatiquement en Wolof et des fois, on peut être puni parce qu'on nous entend parler Wolof en classe. Donc, on n'a pas vraiment eu ce dédoublement de personnalité. Le Wolof, ça a vraiment été naturel, enfin, ça continue de l'être et puis voilà.
Stéphie, la chance qu'elle a, la jeune fille, c'est qu'il y a une langue nationale, une langue officielle qui est le Wolof. Nous, au Cameroun, par exemple, on n'en a pas. Ma fille naît au milieu d'une Bassa et d'une Bamiliké. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Son père ne parle pas Bassa, je ne parle pas Bamiliké. On se parle en français. Donc, elle grandit dans... Et la difficulté, c'est d'avoir le temps de lui apprendre. C'est pourquoi, quand elle a vu ce projet naître, mais jamais elle ne m'a dit... Bon, quand on parlait avec les cousines, elle disait, mais vous parlez anglais? Elle était petite. Maman, chaque fois tu parles anglais avec tata. Non, elle ne comprenait pas. Mais dès que le projet, elle l'a vu, elle est tombée dedans. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, tout ce que le digital, on ne peut même plus s'en passer. C'est très important. Pour ces enfants qui commencent maintenant entre elles à nous imiter, elles nous imitent, mais elles commencent quand même à, quand on parle, elles comprennent. Donc on ne peut plus dire des choses dans leur dos grâce à ce. Non, c'est important. Donc le digital, il faut vraiment continuer dedans. Et même nous autres qui allons à l'église où on chante dans plusieurs langues, vraiment dans les langues africaines. Des fois, on ne comprend pas. Il n'y a même pas de traduction. Mais au travers de ce logiciel-là, il y a des mots qui me reviennent. Je dis, ah, donc ça veut dire ça. Je découvre, parce que personne à l'église à côté de moi ne va me dire, on a dit que oui, Dieu a fait ceci, ou il se passe. Non, mais je sors de là, même si on comprend dans l'esprit, mais c'était toujours intéressant. Donc le digital, aller de l'avant. Oula, oula.
Je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent...
C'est encore moi. Le Bassa était pourtant un truc écrit, c'est-à-dire bien écrit dans les livres d'école. Moi, ma maman, elle a étudié le Bassa à l'école. Elle me récitait des tontines, comme disait mademoiselle. Le livre s'appelait un tongrissé, c'est-à-dire le rang des petits lièvres. Et ces livres-là, ma maman m'en parlait. Elle nous racontait, par exemple, comment elle apprenait Man Aïe Imbegde Ange, Agwe Torie Emo, Bidjerbiye Hibe, Asar Sambegde, Timan Malib, Joanye Mo. Elle nous récitait toutes ces choses-là. Mais je me demande aujourd'hui comment tout cela a pu disparaître. Quant à moi, comme parlait la dame, il me reste un seul missel de l'église en Bassa écrit. Mais à l'époque, nous, à travers maman qui avait fait ces études-là, comme je disais à la base avec les parents, nous, moi, je sais lire et écrire le Bassa correctement. À travers la base, c'est-à-dire les parents et tout. Mais en attendant, je me demande où a pu disparaître, pourquoi ces brochures-là n'existent plus, comment cette éducation-là a pu disparaître. Faut-il toujours incriminer la colonisation? Je suis bien désolée.
Bonjour. Du coup, je réponds juste à la dame. Comment est-ce que tous les livres que vous a enseignés votre mère ont pu disparaître? C'est simplement qu'aujourd'hui, on est un peu dans la mondialisation, que tout le monde se mélange, qu'on a les mariages qui peuvent être mixtes ou même qu'on va vivre dans différents pays, etc. Et moi, je sais que pour ma part, je suis moitié Bassa et moitié Martiniquaise. Et du coup, c'est vrai que mes parents ne peuvent pas communiquer entre eux avec leur langue. Donc forcément, on parle, c'est comme ce que disait la dame, on parle en français. Mon père n'avait pas la patience avec tous ses enfants, juste quand j'étais petite, mais après de parler ça avec tout le monde. Et du coup, voilà, donc c'était juste pour rebondir là-dessus en disant que le fait qu'aujourd'hui on bouge un peu partout fait qu'on perd ça. Et les projets comme Je parle Bassa 2.0 ou Africain, etc., c'est vraiment des projets qui nous, comme l'a dit la demoiselle, nous tiennent à cœur parce qu'on est tout le temps sur nos téléphones et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir, déjà nous refamiliariser avec notre langue et un peu aussi s'approprier notre culture, parce que ça, c'est des choses aussi qui vont se perdre si on commence pas à digitaliser tout ça, parce que nous, on qu'on n'aura pas le temps. Donc voilà, merci.
Moi, je voulais intervenir par rapport à ce qu'a dit la dame et par rapport à ce qu'elle a dit l'autre dame. En fait, moi, je pense qu'en fait, l'éducation que vous avez reçue à votre époque était beaucoup plus liée à l'Église. En fait, je vais en venir. Nos parents ont été éduqués. L'école qu'ils ont faite à leur époque, c'était beaucoup plus une école, je pourrais dire, qui était liée à l'Église, c'est-à-dire catholique ou protestant. Et à cette époque-là, les langues maternelles étaient, je pourrais dire, quelque part obligatoires à l'école. Et aujourd'hui, après la colonisation, on rappelle les années 60, ce n'était plus le cas. On a libéralisé avec l'éducation qu'on a aujourd'hui, un peu comme en France, quoi. Parce que moi, je vais vous dire, le même problème que les jeunes ont en Europe, ils ont le même problème en Afrique, au niveau de la langue. Moi, j'ai des neveux au Cameroun qui ne parlent pas bassa. Pourtant, ils sont dans une famille où il y a deux parents bassa. Donc, je peux dire qu'en fait, ce problème-là n'est pas seulement un problème à l'échelle européenne ou bien à l'échelle en France. C'est un problème qu'on retrouve partout. Donc, s'il y a des canaux qui peuvent permettre de résoudre ce problème à travers le digital, je pense qu'il faudrait même l'accentuer beaucoup plus au niveau de l'Afrique. En Europe, certes, il y a une forte communauté africaine, mais je pense que la grande communauté qu'il faut vraiment sensibiliser, c'est en Afrique, à mon avis.
Merci. C'est aussi pour ça qu'on va donc collaborer avec Totem, qui, eux, sont vraiment implantés au sein du continent.
En fait, c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure dans ma première intervention. C'est-à-dire la question en Afrique, moi je suis au quotidien avec les réalités. Quand tu as même peur tu as honte de ton nom, ça veut dire que tu ne peux même pas parler la langue. C'est la question. Quand tu ne portes même pas le nom, tu ne peux pas parler cette langue. Je dis que les enfants se cachent lorsqu'on les appelle par le nom africain. Je vous dis, c'est une réalité, pas parce que non, ils ont honte lorsqu'on les appelle par le nom africain. Ils ne peuvent pas répondre. Mais du coup, si tu n'as pas le nom africain, tu ne peux pas parler la langue. Donc, c'est nous les parents d'abord, on doit dans les foyers. Mais dès qu'on donne un petit nom à l'enfant, il va chercher à savoir le nom veut dire quoi. Et à partir de cela, il va chercher à comprendre ce qu'il se passe dans la langue. Voilà, c'est nous les parents qui sommes le problème. Effectivement. En France, moi je pense que les enfants même parlent l'africain qu'en Afrique. Les enfants ne parlent même pas la langue africaine. C'est un problème. Donc c'est ce que je voulais expliquer. Sinon, pour moi, le nom, c'est, non. Mais c'est ça, c'est la base.
Merci.
Merci. Oui, alors, je profite pour faire un petit storytelling vite fait. Moi, j'ai grandi ici, en fait. J'ai grandi ici et j'ai appris à parler le bassa ici. Donc, et c'est vrai ce que maman a dit tout à l'heure, effectivement, tout vient des parents. Et je pense que c'est nous les Africains qui avons des problèmes parce que j'ai eu la chance de fréquenter dans d'autres pays et de côtoyer des personnes d'autres nationalités, d'autres continents. Et bizarrement, un petit Norvégien qui grandit à Lomé où il parlait toujours le norvégien, d'accord ? Même si sa mère était américaine, et ben dans ce cas-là, il a le triple tarif. Il parle norvégien, anglais et en plus français. Et puis, il essayait de baragouiner un peu de Mina. Donc, c'est nous, les Africains, qui avons un problème avec nos langues. On a un problème avec nos langues et il faut le dire. Donc, c'est la base. Ce n'est pas question de mariage mixte ou pas mixte ou d'Afrique ou d'Europe. C'est nous-mêmes, dans notre histoire, on a un conflit avec nos langues. Qui est dû en partie à la colonisation, parce que maman me dit que quand elle était petite, ils avaient des espèces de bonnets d'âne qu'on leur mettait quand on les entendait parler le français, leur langue, il fallait parler français. Et en plus, on avait l'impression que le fait de ne pas parler la langue, ça leur permettait d'aller plus loin dans les études. Mais quand je regarde en arrière tous nos grands intellectuels en Afrique, ce sont des enfants qui sont arrivés à l'école en ne parlant pas le français. Ils sont venus en parlant leur langue maternelle et ça a fait des brillants intellectuels dont on lit encore les livres et les écrits jusqu'à nos jours. Donc le problème, ce ne sont pas nos langues, ce n'est pas la distance, c'est nous-mêmes. Et merci les jeunes, ce que vous faites là, c'est formidable.
Bonsoir à tous. J'aimerais intervenir par rapport au monsieur, mais ma soeur d'à côté a tout dit. Je me répète comme elle a dit. Le problème, ce n'est pas les enfants, c'est nous-mêmes. Moi, mes enfants portent les prénoms africains, mais ça les va à merveille. Les Européens, à l'école, on me demande les explications de leurs prénoms. Et les gens, quand on choisit, par exemple, à l'école de mon fils qui est là, on choisit le plus beau prénom, c'est son prénom qui sort. Mais quand j'ai amené mon fils en Afrique, on m'a posé la question, c'est quoi ça? C'est quoi ce prénom? Mais mon fils s'appelle Ewey Peles. Son nom de famille, c'est Sfogatonien, et le prénom, c'est Ewey Peles, qui veut dire souffle de vie innocent. Voilà. Et il le porte très bien. Osons, nous avons de très beaux prénoms. Moi, j'ai une fille qui s'appelle Wanda. Les gens les appellent Wanda. Mais moi, Wanda, à mon patois, ça veut dire beauté. Voilà. Donc, tous mes enfants portent des prénoms africains et ça les va à merveille. Donc, osons. Voilà, merci.
Merci, merci à tous. On va bientôt clôturer cette séance. Alors, je vous invite à échanger le temps que nous sommes encore là. Il nous reste une vingtaine de minutes. Et puis, si vous êtes intéressés par les petits produits, les abécédaires, je parle Bassa 2.0. Et j'espère qu'au cours de l'année, on aura l'occasion de développer les mêmes abécédaires pour le Wolof, le Lingala, le Bambara. Donc, si jamais vous souhaitez contribuer, vraiment, vous êtes les bienvenus parce qu'on a besoin. Il y a 2000 langues, je suis presque toute seule. Donc... Merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup au Musée du Quai Branly de nous avoir accueillis dans ce très beau salon. Merci.